Adjéré, père Philippe, 16 janvier 1984, Saint-Joseph.
Peut-on définir la vertu de justice par le respect du droit propre au vivant, alors que la prudence est propre à l'homme? Si oui, peut-on dire qu'il y aurait deux modalités de la vertu de justice par rapport aux deux finalités de la vie végétative et de la vie spirituelle? Y a-t-il une vertu de justice par rapport au droit à la vie sensible? La vertu de justice est-elle plus liée à l'exister ou à la finalité? La vertu de justice est-elle la vertu la plus naturelle? Pas mal de choses sur la vertu de justice. Bon, on va continuer à essayer de préciser ce que c'est que la vertu de justice et j'espère que progressivement la réponse sera donnée. Alors, je vous disais que la dernière fois, la vertu de justice regarde le jus, le droit, très difficile à bien préciser. Essayez de chercher. Ceux qui ont fait du droit, ordinairement, ne savent pas mieux que les autres ce que c'est que le droit. Parce qu'on ne réfléchit pas sur le droit quand on fait le droit. On regarde tout simplement les diverses applications et les multiples choses. Tandis que le philosophe, lui, s'intéresse à savoir qu'est-ce que c'est que le droit. Vous savez qu'on parle d'une personne morale qui peut avoir des droits. Une communauté a des droits. Une société reconnue par telle loi a des droits. Elle a le droit de recevoir des dons. Aujourd'hui, n'importe quelle communauté n'a pas le droit d'avoir des dons. Il faut que l'État donne le pouvoir de recevoir des dons. On n'a pas la permission de recevoir des dons. C'est très curieux, ça, la manière dont une loi donne des droits. Alors, c'est un jus légal, c'est pas le jus naturel. Alors, il y a un jus qui se fonde, le droit. Encore une fois, réfléchissez à savoir exactement ce que c'est que le droit, c'est très difficile à savoir. C'est une relation, ça c'est sûr, c'est une relation, on ne peut pas être autrement. Philosophiquement parlant, c'est une relation. C'est que j'ai un droit vis-à-vis de quelque chose. Je crois que c'est toujours la même finalité. En fonction d'une finalité qu'on a un droit. Et en fonction donc de l'esprit. Est-ce qu'un animal a le droit à vivre? La vache sacrée, mais autrement. Un animal n'a pas de droit. C'est l'esprit. Et l'esprit lié à la finalité. C'est pour ça que seul l'homme est le sujet de droit. L'animal n'a pas de droit. Alors, l'animal, si il est propriété d'un propriétaire, c'est-à-dire un animal domestique. Alors, il a des droits grâce à son maître. C'est mon bien. Le droit de propriété sur le petit chien. Surtout pas le toucher, c'est pire que tout, n'est-ce pas ? Un petit chien mignon, vous savez, c'est effrayant. Si jamais vous l'écrasez, vous verrez. Pire que tout. Effrayant. Il a des droits à cause du maître. Et en lui-même, il n'a aucun droit. Donc, c'est l'esprit lié à la finalité qui fait que l'homme, par son esprit, c'est comme ça du reste qu'il est responsable, a des droits et doit respecter les droits d'un autre. Il doit respecter les droits d'un autre. Et la justice consiste en effet à respecter les droits d'un autre et respecter tous les droits de l'autre. C'est la première chose que le propre de la justice, c'est de respecter les droits de l'autre. Nous avions vu la dernière fois, je ne reviens pas là-dessus, sur toutes les espèces de droits. Vous pouvez les énumérer, vous pouvez les chercher, mais c'est toujours par rapport le droit à la vie, c'est parce qu'il y a l'esprit. C'est parce que l'homme est un animal sacré, par son esprit. Et c'est dans ce sens-là qu'il a le droit à vivre. L'animal comme tel, est-ce qu'il a un droit naturel à vivre? Très difficile. C'est très bien que la société protectrice des animaux, qui donne alors à ce moment-là aux animaux un droit à vivre et les empêche qu'on puisse les attaquer. Mais autrement, je ne crois pas qu'on puisse parler de droit en dehors. Donc si l'homme a un droit, ce n'est pas sur sa vie végétative, ce n'est pas sur sa vie sensible, c'est tout simplement son esprit. C'est parce que c'est une personne. Donc c'est l'homme en tant que personne, donc en tant qu'esprit, qui est sujet des droits. Et le droit est toujours lié à la personne. Lié à la personne par rapport à elle-même, lié pas à la personne par rapport aux autres personnes, lié à la personne par rapport à Dieu. Donc vous avez trois espèces de droits, c'est facile à comprendre ça. Vous avez la personne dans sa finalité vis-à-vis de Dieu, la personne dans sa subsistance propre, donc regarder en elle-même, la personne face aux autres personnes. Vous avez donc trois droits particuliers. Le droit religieux, on a un droit religieux par rapport à Dieu, un droit sacré. On a un droit par rapport à nous-mêmes, dans notre propre vie et le développement de notre vie, et ce droit est limité. Je n'ai pas le droit de supprimer ma vie. J'ai un droit à un développement de ma vie et à la garder. J'ai un droit de défense si quelqu'un m'attaque. Et puis, il y a les droits par rapport à l'autre et en même temps les devoirs. Puisque droit et devoir, ça se tient. N'est-ce pas? Alors, les deux choses se tiennent. Donc, vous pouvez le faire tout simplement ce point de vue-là. Dès que vous touchez l'esprit, vous avez toujours le triangle. Hein, faut pas l'oublier. Vous avez toujours par rapport à Dieu, par rapport à soi-même, par rapport à l'univers. Est-ce qu'il y a un droit par rapport à l'univers? C'est par rapport à nous-mêmes. Parce que l'univers n'est pas animé, n'est pas spirituel, donc c'est par rapport à nous-mêmes. Donc tout se ramène vraiment à ces trois aspects-là. Ces trois types de relations. Et ces trois types de relations engendrent des droits. Par rapport à Dieu, par rapport au prochain, une fois qu'on a compris ces trois aspects du droit, je peux maintenant essayer de comprendre comment, de fait, puisque je regarde dans une topique historique, de fait, la justice s'est divisée en différents aspects de la justice. On dira la justice, je prends donc des choses qui sont déjà connues, c'est pas la peine de les redécouvrir, on va les redécouvrir en les regardant. La justice commutative. Donnant, donnant. La justice commutative, c'est l'ordre de la personne humaine par rapport à une autre personne humaine. La personne humaine par rapport à son avoir et par rapport à l'avoir d'un autre. Alors, c'est un droit d'échange. Il y a un droit d'échange. Si l'autre est d'accord, j'ai le droit de communiquer à l'autre mon avoir supplémentaire pour prendre un petit peu de son avoir. Toute ma vie, j'ai fait des chaussures. Là, j'en ai des quantités. Et puis, je suis à côté de quelqu'un qui, toute sa vie, a fait de l'agriculture et il a des poires. Alors, j'ai le droit, quand les poires sont mûres, de changer, le troc. C'est la première justice, la justice la plus élémentaire. La justice par rapport à notre avoir. Nous avons des droits sur notre avoir. Et l'autre a des droits sur son avoir. Il faut donc s'entendre. Et alors on appelle ça la justice commutative. La justice commutative prendra un développement beaucoup plus grand grâce à la monnaie. La monnaie va permettre à la justice commutative de se développer énormément. C'est ce qu'on va appeler le commerce. Et là, vous avez une justice dans le commerce, qui est une justice tout à fait horizontale. L'avoir de l'un, l'avoir de l'autre. Et on se communique l'avoir de l'un par rapport à l'autre. Et cette justice a ceci de particulier, qu'elle regarde l'égalité. Une justice très quantitative. Elle regarde l'égalité. C'est pour ça que je dis donnant, donnant. Ce que je donne comme valeur, mon avoir a telle valeur, je prends l'avoir d'un autre. Et on fait un contrat. Il y a des contrats qui sont établis par l'État, parce que l'État peut établir le prix des poires, ou le prix des pommes, ou le prix du poisson, et le prix de la viande, et tout le monde se soumet, on achète ça très bien. Tandis que dans d'autres endroits, l'État n'intervient pas, et alors à ce moment-là, dès que vous achetez n'importe quoi, il y a le palabre qui dure assez longtemps pour que vous ayez le droit. Marchand de tapis, vous savez, ça diminue de la moitié. Je ne sais pas comment ça se fait, mais ça diminue de la moitié. Alors, on prend et alors c'est le point de vue. Et c'est intéressant de voir ça. De voir comment, dans certains domaines, hein, les domaines artistiques, pourquoi vendre tel Christ tel prix? Pourquoi vendre tel tableau tel prix? Je demanderai à quelqu'un de spécialisé pour ne pas vous faire. Pourquoi vendre cette maison tel prix? Ah, les voitures, c'est autre chose, hein, on sait. Il y a un prix officiel. Les maisons, on peut discuter indéfiniment. C'est beaucoup plus individualisé. Mais quand les choses sont beaucoup plus individualisées, c'est un avoir. Alors, c'est toujours la question de l'avoir. Et la question de l'avoir et du prix que ça représente. Bon, première justice, justice commutative. Et la justice commutative, elle est très vieille, très ancienne. Je crois que c'est la première justice. C'est le troc. Comme ça, vous avez fait. Avec la monnaie, ça devient un peu plus compliqué. Mais au fond, c'est le deuxième type de justice. La justice distributive. C'est beaucoup plus complexe. Une justice beaucoup plus qualitative. Elle est proportionnelle, celle-là. Elle ne peut pas être dans l'égalité, la justice distributive. La justice distributive, c'est une justice qui consiste à regarder les qualités particulières d'une personne. Vous voyez, quand il s'agit d'un métier libéral, pourquoi un médecin de très grande qualité peut-il se faire payer plus cher qu'un médecin de moindre qualité? C'est l'aspect de la personne que vous regardez. Il réussit beaucoup mieux, il a fait beaucoup plus d'études, il a des qualités particulières. Pourquoi un homme qui est un grand artiste peut-il exiger quand il fait un concert quelque chose de plus important qu'un autre? En toute justice et en toute honnêteté. Évidemment, il y a des limites, hein, il y a des limites, c'est sûr. Mais et quand même, il y a ce point de vue de la justice distributive. La justice distributive regarde les qualités de la personne qui agit. Et pas uniquement l'avoir. Là, on est tout à fait dans le domaine de la quantité. Ça, c'est l'égalité. Res adresse. C'est ce que dira saint Thomas. Res adresse. C'est la réalité qu'on regarde des deux côtés. On peut la mesurer. On peut mesurer l'avoir. Tandis que dans la justice distributive, vous ne pouvez plus mesurer. Vous êtes au-delà du point de vue de la mesure. Parce que vous regardez les qualités de la personne. Et dès que vous regardez les qualités de la personne, c'est des appréciations, des goûts et des couleurs, personne ne peut discuter. Et au fond, c'est ça. Alors, la réputation de quelqu'un. La justice distributive va regarder aussi celui qui est un législateur et qui devra faire attention de donner les postes importants à des gens capables de les tenir. Alors ça va beaucoup plus loin. Oui. C'est une justice qui va regarder l'office de chacun. Si vous êtes incapable et qu'on vous donne un poste important, ben tout le monde en recevra les conséquences. Premier ministre. Un Premier ministre, je n'en dis rien, je laisse la voix publique d'en parler. Alors si le Premier ministre, on lui demande comme Premier ministre, c'est important. Le président de la République, il est élu. Quand vous votez, c'est un devoir de justice distributive ou de justice commutative? De temps en temps, c'est la commutative. Sur les pots de vin par derrière. Hein. Si tu votes comme ça, je te donnerai tant. Justice commutative. Vous avez transformé la justice distributive en justice commutative. C'est effrayant. Le vote, voter, c'est un acte de justice. Et un acte de justice distributive, hein. Vous n'avez pas le droit de confier un poste principal d'État à un incapable. Absolument pas. Et cet incapable refera retomber sur tous les ministres son incapacité. Vous n'avez pas le droit. Et vous avez commis un acte d'injustice. Qui peut être très grave. Parce que c'est la justice distributive. Quand on vote, c'est la justice distributive. Ce n'est pas de la justice commutative. Vous allez me dire que c'est la justice légale. Dans les français, c'est la justice légale. Voilà les trois grands types de justice qu'on distingue ordinairement au point de vue philosophique. Je crois que c'est difficile de... C'est sûr qu'il y en a trois types très différents. Irréductible. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je crois qu'il y a des sous-titres. N'est-ce pas? Mais au fond, là, il y a trois aspects très très nets. Res adres, ici la justice distributive, c'est le tout vers la partie. Et la justice légale, c'est la partie vers le tout. Vous allez comprendre. Hein? C'est que dans la justice légale, payer ses impôts, c'est de la justice légale. C'est pas de la justice distributive, c'est pas de la justice commutative. Payer ses impôts, c'est la justice légale. La loi impose cela. Obéir à la loi, parce que la loi crée des droits. Et elle peut créer des droits. Elle peut créer des droits justes ou des droits injustes. Quand la loi, par exemple, fait que tous les concitoyens payent les frais de l'avortement, est-ce que c'est une justice légale de répondre à la loi? Ou alors c'est de dire, eh bien, je retire de mes impôts ce qui normalement redeviendrait là pour bien faire comprendre que je n'entre pas dans la combinaison. C'est très compliqué, ça. Et c'est vrai que dans un pays où il y a des lois qui ne sont pas des lois égales, qui ne sont pas des lois légitimes, ça devient extrêmement difficile, la justice légale. Payer ses impôts, c'est de la justice légale. Mais quand il y a des lois injuste, illégal, qui interviennent, il faut que chaque concitoyen, selon sa prudence, je ne peux pas poser un acte de justice sans qu'il y ait un acte de prudence. C'est pas automatique, hein, le billet qu'on a, en principe, ça y est, je dois payer tant d'impôts. Ça, c'est automatique. Non. L'exercice regarde la prudence. Parce qu'on peut toujours camoufler. On peut toujours essayer de camoufler. Tant qu'il n'y a pas d'inspecteur. Les inspecteurs sont là pour essayer de voir clair là-dedans, mais au point de vue prudentiel. La douane, c'est la justice légale. C'était très discuté, ça c'est des choses qui sont très discutées. La douane, quand je... Si je prends dans un pays tel produit est moins cher que dans un autre, pour le revendre dans l'autre, je crois qu'on touche la justice légale. Si je prends uniquement pour moi, je ne touche pas la justice légale. Très compliqué. Mettre de l'argent à l'étranger, dans les secrets des banques, est-ce que ça touche la justice légale? C'est toutes les questions qu'on pose tout le temps, ça. Il faut en avoir un regard au plan de vue philosophique. Qu'est-ce que c'est que la justice légale? Qu'est-ce que c'est que la justice distributive? Qu'est-ce que c'est que la justice... Et comprendre que tout acte de justice présuppose la prudence. Toujours. Je ne peux jamais faire un acte de justice sans que la prudence intervienne. Parce que ça reste un acte humain. Et si ça reste un acte humain, il faut que la prudence intervienne. Et il faut que la justice soit ordonnée vers un amour d'amitié. La justice est un moyen. La justice n'est pas mon bonheur, hein, sauf pour Platon. Tandis que pour la réalité, la justice n'est qu'un moyen. C'est pour ça que le point de vue politique n'est pas au niveau justice, il est au niveau du bien commun. Alors que pour Platon, il est au niveau de la justice. Et on voit tout de suite la différence. Parce que le point de vue du bien commun, c'est l'amour d'amitié, la concordia, comme je disais tout à l'heure, la justice est faite pour ça, pour maintenir la concorde. Parce que quand la justice n'est pas réglée, il ne peut pas y avoir de concorde entre les citoyens. On crée tout de suite des rivalités. Dès qu'on a des injustices au niveau légal, on crée des oppositions violentes. Parce que les gens sont très sensibles à la justice. On est très sensibles à la justice. On a comme une espèce de... Je crois que c'est dans la justice qu'on est le plus sensible. Quand on voit des injustices qui se font, on est tout de suite dans un état d'irritation. L'injustice est très proche de l'intelligence. Elle est dans la volonté, mais elle implique le point de vue de l'intelligence. Et dès qu'on touche des injustices, immédiatement votre irascible est là. Votre irascible est particulièrement éveillée en face d'injustice. Et plus les injustices sont grandes, plus l'irascible est éveillée. Votre irascible est éveillée devant la justice commutative. Vous savez, quand vous voulez mentir à quelqu'un, dans la vente, tout ça, vous prenez une chose et puis vous mettez un faux billet. Vous mettez quelque chose qui ne va plus. C'est irritant quand on assiste à ça. On a envie de tout de suite de rétablir la justice, rétablir l'égalité. L'injustice au niveau de la justice distributive va beaucoup plus loin. Quant à la place de mettre vraiment les hommes compétents, on met les petits amis, les petits copains, les gens qui appartiennent au parti. C'est contre la justice distributive. Parce que le parti n'est pas le pays, n'est pas le bien du pays. Et donc quand vous faites passer devant les petits copains, vous voyez ça constamment, et alors à ce moment-là, vous pouvez dire que vous êtes devant une injustice. Et l'injustice au niveau de la justice distributive, donc les abus, c'est ce qui corrompt le plus le bien commun. C'est la corruption la plus directe du bien commun. Et c'est pour ça que c'est en face des injustices au niveau de la justice distributive qui nous mettent le plus en colère. Parce qu'on voit qu'à ce moment-là, les gens compétents sont mis à l'écart et les incompétents sont mis devant. Tout simplement parce qu'ils font partie d'une certaine mafia. Et vous voyez ça dans tous les domaines. La justice, les fautes contre la justice distributive, c'est le plus terrible. Donc la justice distributive, vous voyez, c'est mettre le tout. Lorsqu'il s'agit de celui qui a l'autorité suprême, c'est mettre chacun là où il pourra être le plus efficace et le mieux aider, soutenir. La justice distributive, c'est lorsque vous-même, ayant autorité, vous respectez les compétences de chacun. C'est respecter les compétences de chacun. C'est ça la justice distributive, en vue du bien commun. Et quand on ne respecte pas les compétences de chacun en vue du bien commun, mais qu'alors il y a tout simplement le fait fait passer devant les petits amis, ça ne va plus. On corrompt l'ordre et l'harmonie de la cité. La justice légale, c'est à partir des lois. C'est à partir des lois. Donc la partie de l'individu qui regarde tout. Quand je paie les impôts, je paie mes impôts avec mon avoir, ce que je possède, et je regarde le bien commun, le tout. Oui. Dans ce sens-là que je crois qu'on peut dire qu'il y a trois types de justice vraiment irréductibles. Et vous voyez, si on essaie de réfléchir au point de vue philosophique, Vous voyez que la justice commutative repose sur la voie, la justice distributive repose sur les qualités de la personne et l'efficacité, c'est évident, et les droits, mais c'est les qualités de la personne. Et la justice légale repose sur le point de vue de la loi. Donc c'est la justice distributive qui est au fond la plus qualitative, qui met le plus en lumière combien la justice regarde la personne en fonction du tout, pour que la personne humaine puisse avoir ses qualités parfaites, puisse exercer parfaitement ses qualités. Face à ces justices, vous regardez les injustices et vous comprenez que c'est que l'exercice de chacune de ces justices implique toujours la question de la prudence pour ordonner tout acte de justice à l'amour d'amitié, à la concordia, c'est-à-dire à l'harmonie profonde des citoyens. D'autre part, comprenons bien que la justice s'exerce toujours dans une communauté. Quand vous êtes un ermite, quand vous êtes un ermite, vous n'exercez plus beaucoup la justice. Vous exercez par rapport à vous-même, c'est-à-dire vous maintenir dans une santé qui soit bonne. Parce que vous n'avez pas le droit de vous tuer. Vous n'avez pas le droit de vous suicider à petit feu. C'est-à-dire faire la grève de la faim. Un ermite peut faire la grève de la faim. C'est même pas si mal. Ah, c'est pas si mal, vous comprenez bien. C'est pas si mal, c'est là où il l'a fait le mieux, parce que personne ne le voit. Il peut faire la grève de la faim. A-t-il le droit? Non. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de se suicider, parce que la vie ne lui appartient pas. Donc, mais il a le droit de faire de la sèse. Il a le droit d'aller assez loin dans l'ordre de la sèse. Il a le droit de jeûner. Il a le droit de jeûner fortement pendant le carême. Il peut faire un carême au pain et à l'eau. À la fin du carême, il ne sera plus beaucoup, mais ça n'a pas d'importance. Il perdra pas mal de kilos, tant mieux, n'est-ce pas ? Parce qu'il est capable d'en perdre. Mais s'il maintient ce qu'il doit faire, très bien, il a le droit. Il va aller très loin dans la 16. Alors, vous voyez qu'un ermite, sa justice, c'est peu de chose. La justice est avant tout une vertu communautaire. L'ermite, ce sera sa justice par rapport à Dieu. Alors ce sera l'adoration. Il est ermite pour adorer. Et toute la justice regardera Dieu, et la justice par rapport à lui-même sera relative à celle de Dieu. Et plus du tout par rapport aux hommes. Donc, la justice sera très peu de choses, ce sera uniquement au niveau sacré, au niveau de sa vertu de religion. Bon, je ne veux pas aller plus loin dans l'ordre de la justice. C'est très important d'étudier la justice. Si vous avez des questions là, vous les poserez progressivement, n'est-ce pas, pour essayer de comprendre. Je relis simplement les questions qui ont été posées. Peut-on définir la vertu de justice par le respect du droit propre au vivant ? Alors que la prudence est propre à l'homme. Non, la prudence et la justice sont propres à l'homme. Vous comprenez bien, ce n'est pas le vivant. Vous n'allez pas exercer la justice à l'égard du petit chien. Vous exercez la justice à l'égard du petit chien si le petit chien appartient au voisin. Alors vous respectez, il appartient au voisin. Mais il est sur votre territoire. Alors vous savez bien, en toute justice, vous avez le droit de l'abattre. Mais en toute amitié, non. Alors c'est là où la prudence interviendra. En disant, j'ai le droit de l'abattre, il est sur mon territoire. J'ai le droit d'abattre les pigeons. Les pigeons, ils n'appartiennent à personne, après tout. Hein. Alors on ne fera pas aux pigeons. On va tous les abattre en même temps. Comme ça, les toits seraient plus propres. N'est-ce pas ? C'est la première chose à faire. Donc, le droit regarde la personne et pas le vivant. Si oui, peut-on dire qu'il y aurait deux modalités de la vertu de justice par rapport aux deux finalités de la vie végétative et spirituelle. Non. C'est toujours par rapport à la vie spirituelle, la justice. C'est pas par rapport à la vie végétative. Vous n'avez pas le droit de vous suicider parce que votre vie ne vous appartient pas. Donc c'est spirituel, ça. C'est par rapport à Dieu. Y a-t-il une vertu de justice par rapport au droit à la vie sensible? Non. Par rapport à la vie spirituelle. La vertu de justice est-elle plus liée à l'existence ou à la finalité? Elle est liée à la finalité. La vertu de justice est-elle la vertu la plus naturelle? Plus naturelle dans quel sens? Aucune vertu n'est naturelle, puisqu'elle est humaine. Toute vertu regarde l'homme. Et toute vertu regarde le point de vue éthique. Donc toute vertu est volontaire, elle n'est pas naturelle. Toute vertu a un fondement naturel, mais la morale n'est pas naturelle. La morale est volontaire. Elle est finalisée, la morale. Il n'y a pas de morale naturelle. C'est parce que la nature comme telle, non, c'est l'opération volontaire qui est finalisée, à partir de laquelle l'éthique commence. Donc il faut bien saisir que l'éthique n'existe qu'au niveau volontaire et donc au niveau de la finalité. Et la justice, c'est une vertu morale. Alors, dernier point, la justice... Elle est reçue dans la volonté. Parce que notre volonté, quand il s'agit de la fin du bien et de la fin, n'est pas entièrement déterminée. Ça, c'est un très gros problème. Si l'appétit volontaire était parfaitement déterminé vers le bien et vers la fin, il n'y aurait pas besoin de la vertu de justice. Vous vous souvenez, je vous ai dit au début la nécessité de poser ses habitudes en fonction d'une indétermination de l'intelligence. Et c'est comme ça que nous avons posé la vertu de prudence. Et en fonction d'une indétermination de la volonté. Il n'y a pas besoin d'habitus pour l'amour d'amitié. Et on a besoin d'un habitus pour la justice. C'est curieux, ça. Il n'y a pas besoin d'un habitus particulier pour la volonté. La volonté suffit. L'appétit spirituel suffit. Et il est suffisamment déterminé. L'appétit spirituel est déterminé vers le bien spirituel. Et cette détermination vers le bien spirituel, cet ordre vers le bien spirituel suffit. Pas besoin d'un autre habitus. Parce qu'il y a un ordre naturel vers le bien. Tandis que vis-à-vis du droit, le bien, la fin, le droit. Vis-à-vis du droit, vous n'avez pas un appétit naturel. Il y a un appétit fondamental de respecter le droit de l'autre, c'est bien évident. Parce que vous avez envie qu'on respecte votre propre droit. Et aux autres ce que tu désires qu'on fasse à toi-même. Hein? Ça, c'est tout à fait naturel. C'est pas œil pour œil dans mon dent, mais fais aux autres ce que tu désires qu'on fasse à toi-même. Ça, c'est un adage naturel. C'est un axiome tout à fait naturel. C'est que on respecte les autres pour être respecté. Et c'est vrai, ça. Donc, au niveau de la volonté, ce n'est pas au niveau de la fin, au niveau du bien. À un niveau inférieur, le droit. Respecter le droit de l'autre. Respecter le droit de l'autre, c'est indirectement mon bien. C'est pas directement mon bien de respecter le droit de l'autre. C'est indirectement. Et c'est pour ça qu'il faut une vertu pour respecter pleinement le droit de l'autre. Tandis que je n'ai pas besoin de vertu pour aimer l'autre. Mais j'ai besoin d'une vertu pour respecter son droit. Parce que respecter le droit de l'autre n'est pas immédiatement mon bien. Et donc, il faut nécessairement que ma volonté reçoive un pli qui vient s'ajouter à l'appétit naturel pour que la volonté puisse regarder le droit de l'autre. et respecter le droit de l'autre. Et donc là, vous voyez comment la vertu de justice doit naître. Elle a besoin de naître parce que ce que regarde le point de vue de la volonté, qui est le droit de l'autre, n'est pas immédiatement mon bien. Et c'est très vrai, quand vous regardez le droit de l'autre, n'allez pas me dire c'est mon bien. Non, c'est ton bien. Mais c'est le bien de l'autre que je respecte pour qu'on respecte mon bien. Alors à ce moment-là, on voit le point de vue de mon bien qui intervient, mais indirectement, en passant par l'autre. Je respecte, donc ça c'est le point de vue de l'avoir, je respecte les qualités de quelqu'un qui a telle fonction, et je reconnais qu'il a ses qualités pour accomplir cette fonction, je respecte ses qualités, et je sais très bien qu'en respectant ses qualités, de cette manière on respectera mes qualités. Et puis en respectant ses qualités, le bien commun sera beaucoup plus efficace, du moins beaucoup, beaucoup mieux respecté, beaucoup mieux réalisé. Donc c'est indirect, c'est jamais direct. Le droit de l'autre n'est pas immédiatement mon bien. Il est par ricochet de l'action de l'autre. Donc il est par ricochet de la communauté. C'est assez curieux ça. C'est ce qui fait comprendre que la justice est à la fois quelque chose de très profondément inscrit en nous, mais que la justice n'est pas immédiatement naturelle. Il n'y a pas un appétit immédiatement naturel. Alors ça a beaucoup de conséquences, vous voyez, parce que ça explique comment l'injustice peut se mêler si facilement. Et que par une espèce de propagande, d'influence, vous pouvez très bien arriver à obnubiler la justice, surtout la justice distributive et la justice légale. Tandis que vous n'arrivez beaucoup plus difficilement, et même vous ne pouvez pas arriver, par une espèce d'influence, à supprimer l'amour naturel qu'on a pour une personne. Vous arriverez, vous pouvez arriver, à corrompre, à détruire une amitié par une espèce de propagande contre une personne en disant du mal, en disant du mal indéfiniment. Là, vous arriverez à supprimer, mais beaucoup plus difficilement, et ce sera beaucoup plus long. Tandis qu'au contraire, au niveau de la justice, c'est beaucoup plus rapide. Les propagandes vont très très vite au point de vue de la justice. Au point de vue de la justice, ça va beaucoup plus vite, parce que ce n'est pas direct. Alors ça, ce serait intéressant à voir, vous voyez, le lien entre le droit et le bien. Le lien entre le droit et la fin. Là, le droit, mais du côté d'un moyen. C'est jamais une fin. C'est qu'un moyen. C'est un moyen pour permettre à la personne de se développer plus et d'être plus elle-même. Mais ce n'est pas directement le point de vue de la fin, ni le point de vue du bien. Et alors, parce que c'est un moyen, c'est relatif. Et parce que c'est relatif, ça peut être beaucoup plus facilement détruit. C'est moins enraciné dans l'appétit naturel. Mais c'est un des problèmes. Comment se fait-il qu'il y ait tant d'injustices dans le monde, quand même ? On pourrait dire aussi, c'est un problème, il y a tellement peu d'amitié dans le monde. C'est très vrai. Mais l'injustice, c'est une chose quand même terrible de voir. Comme les gens peuvent être, au bout d'un certain temps, mais complètement déroutés, déviés dans l'ordre de la justice. Alors qu'il y a quand même quelque chose de naturel. Et bien, c'est parce que justement, ça ne regarde pas du tout mon bien. Ce n'est pas directement mon bien, ce n'est pas ma fin. Alors on comprend que ça peut intervenir beaucoup plus. Donc, comprendre que la justice se développe à l'intérieur d'une communauté, et parce qu'elle se développe à l'intérieur d'une communauté, je comprends très bien, partout. Pas d'autre combinaison. Quand vous mettez un individu dans un tout, dans une communauté, où il regarde les autres individus, où il regarde le tout, où le tout le regarde. Et donc, vous avez trois relations. justice commutative, justice distributive, justice légale. Et vous pouvez les décrire immédiatement par les trois types de relations qui peuvent exister. Et dans la justice, alors à l'égard de Dieu, la justice à l'égard de Dieu, ce sera ce qu'on va appeler le point de vue de la religion. Je ne vois pas maintenant, nous le verrons par rapport à Dieu. C'est la religion. La vertu de religion, c'est la vertu de justice par rapport à Dieu. C'est-à-dire, c'est une vertu de justice qui n'est pas une véritable vertu de justice. C'est une partie de la vertu de justice. C'est comme les enfants par rapport à leurs parents. Vous savez bien que quand un gosse vole de l'argent à ses parents, au sens strict, il ne vole pas. Puisque ce qui est aux parents appartient aux enfants. Mais d'autre part, quand l'enfant grandit et qu'il devient de plus en plus autre que les parents, alors à ce moment-là, plus il prend l'argent de ses parents, plus il peut commettre une injustice. Mais un tout petit gosse, il ne peut pas les faire. Il ne faut pas favoriser. On comprend très bien qu'il fait partie de la famille. Alors l'argent des parents, c'est l'argent des enfants. Il n'y a pas de... C'est pour ça que ce n'est pas une véritable injustice. Tandis que l'argent de votre voisin, ce n'est pas votre argent. Oui. L'argent de votre voisin, ce n'est pas votre argent, et donc vous pouvez vous n'avez pas le droit de le prendre. Ça ne fait pas partie de votre avoir au sens strict. N'est-ce pas? Alors, je m'en tiendrai là pour la question de la justice, pas plus. Et puis nous verrons la fois prochaine la vertu de force. Donc la vertu de justice ennoblit la volonté. Et ennoblit la volonté en tant que l'homme, en tant que la personne humaine, est une partie d'une communauté. C'est ça qu'il faut voir. En tant que partie d'une communauté, on a des devoirs vis-à-vis de cette communauté. En tant qu'on est partie d'une communauté, on a des relations particulières vis-à-vis des droits de cette communauté. Et c'est en ce sens-là que la vertu de justice joue. Je vais à Lyon pour donner un cours de philosophie, d'éthique encore.